Bonjour tout le monde. Ça va bien? Êtes-vous réveillé? Ce matin, on continue la série sur l'ambition. La semaine dernière, j'ai posé une question, puis c'est intéressant, j'ai jasé avec du monde cette semaine. Il y a des gens qui disent « Ouais, ok, je te vois aller », d'autres « j'ai peur de voir où tu vas atterrir, où est-ce qu'on s'en va avec cette affaire-là ». Est-ce qu'un chrétien peut être ambitieux? Ma réponse à moi, c'est que être chrétien et ne pas être ambitieux, c'est quelque chose qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'un chrétien, au strict minimum, c'est ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, va au moins ambitionner de la gloire éternelle. J'ai essayé de provoquer un peu votre réflexion parce que je pense dans une mauvaise compréhension de ce à quoi Dieu appelle l'être humain, l'humanité, on découvre l'humilité, par exemple, comme vertu dans le Nouveau Testament. Puis là, on découvre l'humilité, puis on se dit, ben non, regarde, un chrétien ne peut pas aspirer à des choses grandes et merveilleuses. J'essaie de provoquer un peu votre réflexion en disant, oui, mais quel est le prix promis par Dieu pour les humbles? Quel est le prix qui est offert à celui qui marchera dans l'humilité? Mais c'est la gloire! Donc, à quelque part, dans un certain sens, je choisis d'embrasser une attitude humble et de serviteur envers les gens autour de moi, bien sûr pour la gloire de Dieu, bien sûr parce que je veux suivre Jésus-Christ, mais aussi parce que j'aspire à participer à la gloire de Dieu. Et donc, ce qui est promis pour les chrétiens dans l'éternité, c'est pas simplement d'être là devant la gloire de Dieu, puis voir, apprécier, adorer Dieu, puis nous être là dans nos guenilles, chiffres molles, misérables, puis on est juste content d'être devant un Dieu glorieux. C'est pas ça la promesse. Je suis désolé, c'est pas ça qui est promis. Non, Dieu nous promet qu'on va être revêtus de gloire, qu'on va être co-héritiers avec Christ. Et donc, Dieu, c'est super important parce que lorsque vous parlez de Dieu, lorsque vous parlez de la foi chrétienne à des amis qui connaissent pas Dieu, ils peuvent avoir cette image misérabiliste du christianisme qui est pas du tout biblique. L'humilité a un motif profond. L'humilité ne vient pas du fait que je me trouve minable et misérable, incompétent, et donc je suis humble. Pas du tout. Je suis conscient de ce qu'il y a en moi, et ceci me conduit vers l'humilité, et j'aspire à cette gloire, de participer à cette gloire. Lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé la femme, il a créé à son image. Et ce matin, on s'en va dans deux passages, parce que ce matin, on va commencer à aller voir justement, OK, il y a des histoires d'horreur liées à l'ambition. On s'entend, vous en avez tous dans vos familles. Peut-être que vous avez été l'auteur d'histoires d'horreur liées à l'ambition. Vous avez détruit des vies autour de vous en raison de l'ambition. Donc ce matin, on va parler de la corruption de l'ambition et de la conversion de l'ambition. Mais on retourne ce matin dans un passage fondateur. Camille va nous lire ça dans quelques instants. Dans Genèse 1, au moment où Dieu crée l'homme, crée la femme à son image. C'est un texte fondateur parce que je ne peux pas comprendre vraiment, je ne peux pas saisir à quoi sert l'humanité, quel est le sens de ma vie, pourquoi est-ce que l'homme existe, l'être humain existe, si je ne saisis pas premièrement cela. Dans quel contexte avons-nous été créés? À l'image de qui avons-nous été créés? Et quel est notre mandat premier qui nous a été donné? Donc, c'est un texte vraiment fondateur. Ensuite de ça, Camille va nous lire un deuxième passage dans Genèse 3. On est encore au fondement de l'humanité. Et là, on assiste à la corruption de tout ce sens profond-là de ce qu'est l'être humain. D'accord? Ce matin, je ne vais pas m'étendre. C'est le diable vient sous la forme d'un serpent, vient tenter Ève, tout ça. Ces passages-là, pour moi, sont historiques. Mais je ne peux pas m'étendre sur ça ce matin. Je suis désolé. Pour moi, c'est clair qu'Adam et Ève, ce sont des personnages historiques, on a leur généalogie, tout ça. Il y a un premier homme, il y a une première femme, on va s'entendre là-dessus, j'imagine. Mais je n'irai pas beaucoup plus loin sur ça. Ce que je vous demande, c'est d'être réceptif au message qui va être apporté là. Parce que ce moment-là, dans Genèse 3, il y a quelque chose qui va se passer. Une idée va être proposée à l'être humain, et l'être humain va embrasser cette idée-là. Et c'est à ce moment-là qu'on assiste à la Genèse, pour faire un mauvais jeu de mots, la corruption de l'ambition. D'accord? On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Donc, les passages bibliques, le passage biblique, mais il y en a deux. Deux passages bibliques ce matin, ils sont tirés du livre de Genèse, 1 au chapitre 1, versets 26 et 27. Le deuxième, ça va être le chapitre 3, versets 2 à 5. Donc, je commence avec le premier, chapitre 1, versets 26 et 27. Puis, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Le deuxième passage est au chapitre 3, versets 2 à 5. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »
Merci, Camille. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Père éternel, tu es absolument extraordinaire, Seigneur, et une des grâces particulières qui nous est offerte lorsqu'on étudie ta parole, c'est de découvrir ta beauté, ta grandeur, d'apprendre à t'élever dans nos prières, dans notre vision de nos vies, de reconnaître que tu es Dieu, et que nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous apprenons en lisant les Écritures à ordonner nos vies autour de toi, Seigneur. C'est un immense privilège. Père, dans ta parole, tu dis que tu as créé l'homme comme une créature merveilleuse, l'être humain comme une créature merveilleuse, à ton image. Et dans ta grâce, tu nous invites à t'adorer et à participer à ta gloire. Père, je vais te demander de nous instruire ce matin. Je te prie, Père, de venir réformer notre compréhension de cette énorme question qui est l'ambition, Seigneur. De ces rêves de gloire qui sont dans tous les cœurs humains, Seigneur. Viens nous instruire par ta parole. Viens nous transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen. Vous savez, je pense que souvent notre malaise avec l'ambition, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a tous vu des histoires d'horreur liées à l'ambition. Il y a une jeune femme, Geneviève Janson, probablement que la plupart d'entre vous savez de qui je parle. Cycliste, gagnée à plusieurs reprises, première championne canadienne sur route, vraiment là, une étoile montante. Et il y a quelques années, des tests de dépistage, de dopage avaient commencé à sortir. Puis en fin de compte, le scandale est sorti, elle a admis devant toutes les évidences, elle ne pouvait plus le cacher, qu'en réalité, elle se dopait depuis longtemps, assistée de tout le monde autour d'elle, la famille, l'entraîneur, tout ça. Et elle a reconnu tout cela. Aujourd'hui, cette jeune femme-là est en train de refaire sa vie, puis je lisais un petit peu sur elle, tout ça, puis je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Mais l'histoire de Geneviève Janson, c'est l'histoire d'une ambition qui peut-être était très noble à l'origine. Gagner des compétitions de cyclisme et puis de monter dans tout ça, et qui, dans le processus, si à l'origine cette ambition-là était noble, elle s'est corrompue. Et la fin a commencé à justifier les moyens. D'accord? Et donc, à un certain moment donné, tu vois plus clair, puis tout ce que tu veux, c'est ce rêve-là de gloire qui est là. Et je pense que souvent, notre malaise avec l'ambition, c'est qu'on connaît, ou peut-être qu'on a produit nous-mêmes, des histoires d'horreur de la sorte. Ou nous-mêmes, on a brisé, on a fait du mal autour de nous, parce qu'à quelque part, même si l'ambition au départ pouvait être noble, elle s'est corrompue. La fin a justifié les moyens au point de détruire notre vie puis des vies autour de nous. La semaine dernière, on a vu ensemble, simplement pour se remettre dans le contexte, que Dieu nous a créés pour apprécier sa gloire, pour l'adorer. Mais clairement, dans Genèse, et on y revient ce matin, Dieu nous a créés aussi pour participer à sa gloire. Dieu promet à celui qui va chercher à obéir, à marcher dans ses voies, il lui promet la gloire. En fait, Paul va plus loin que ça. Il dit que Dieu va bénir celui qui, poursuivant la gloire, s'applique à l'obéissance. C'est vraiment impressionnant. On va aller dans tout ça ensemble ce matin. Donc, Dieu nous a créés pour apprécier sa gloire et y participer. Et donc, il nous a créés avec une aspiration profonde à ce qui est glorieux. Et ça, c'est important aussi de le saisir parce que ça m'aide à comprendre pourquoi on répond comme ça lorsqu'on se trouve en présence de quelque chose d'autre qui est glorieux. Je donnais l'exemple la semaine dernière avec le Canadien, mais je peux me trouver devant une pièce de musique, devant une réalisation, une œuvre d'art, et je peux avoir une appréciation, une admiration profonde pour l'artiste qui a fait cela. Parce qu'il y a comme un élément de beauté absolument incroyable, je suis subjugué devant cette beauté-là, puis ça me transporte. Parce qu'on a été créé pour apprécier et pour aspirer à ce qui est glorieux. Dieu n'a pas créé la terre laide. Il a créé belle pour qu'on apprécie ce qui est beau, majestueux et glorieux. Et c'est important de le saisir pour moi cheminer dans la vie chrétienne, mais aussi pour représenter, pour annoncer l'Évangile. Parce qu'encore une fois, si je ne saisis pas cela, le danger qui est devant moi, c'est de vivre une vie chrétienne misérabiliste et de présenter un christianisme qui l'est aussi. Alors que ce n'est pas le cas du tout. L'œuvre fondamentale que fait l'Évangile, la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus-Christ, de sa mort sur la croix, de sa résurrection et de ce que cette foi dans cette œuvre-là produit en nous, c'est une œuvre de restauration où Dieu prend des êtres humains qui ont été brisés, cassés, fracturés fondamentalement dans ce que nous sommes et l'Évangile progressivement vient restaurer les êtres humains que nous sommes censés être. Et donc, c'est très approprié de retourner dans la Genèse pour voir à la création ces deux créatures-là merveilleuses qui sont là, Adam et Ève, et qui sont là pour glorifier Dieu, pour le célébrer. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'en abandonnant notre Créateur, c'est en abandonnant notre Créateur que nos ambitions se sont corrompues. Et dans sa bonté, on va voir ensemble un homme parfaitement ambitieux qui est venu pour nous restaurer. Ce matin, la corruption de l'ambition et la conversion de l'ambition. L'origine de l'ambition égoïste. Voici comment je le formule, d'accord? Abandonner mon identité de créature de Dieu pour la gloire de Dieu. Ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, si vous allez avec moi dans Genèse 1, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la terre. Et encore une fois, si vous êtes mal à l'aise avec cette idée-là que l'homme devait dominer avec toutes les questions environnementalistes, ça ne veut pas dire qu'on a été extraordinaire, d'accord, dans nos performances. Et donc, prenez ce terme-là dans son sens le plus noble possible. Si je voulais y aller avec une illustration simple, prenez l'image du jardinier qui va dominer les éléments qui sont dans son jardin pour les organiser, les structurer et les faire fructifier, d'accord? Faisons l'homme à notre image, dit Dieu, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu nous crée pour que nous reflétions sa gloire de créateur, sa gloire d'organisateur, sa gloire de gestionnaire, sa gloire de celui qui a créé l'univers, qui l'a ordonné, et il dit à l'homme, voici, je te crée à mon image, tu vas avoir conscience de qui je suis et de tes origines, puis maintenant tu vas devenir un imitateur de Dieu, et à petite échelle, à ton échelle à toi, tu vas être en quelque sorte un Dieu sur la terre, dans une certaine mesure. Mais en même temps, à ce moment-là, Dieu dit, Tu n'oublieras jamais d'où tu viens. Tu n'oublieras jamais ton Créateur. Et donc, cette ambition qui est placée en l'homme, en la femme, d'être un reflet parfait de la personne de Dieu, s'est corrompue au moment où l'être humain a décidé de se détacher de son Créateur. Regardez bien ce qui se passe dans Genèse 3, lorsque le diable, sous la forme d'un serpent, vient suggérer, et là on pourrait aller voir l'histoire même, l'origine du diable lui-même, qui a déjà chuté de la même manière. On n'a pas le temps d'aller là ce matin. Mais il vient puis s'adresse à la femme. La femme lui répond, elle dit, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Et fondamentalement, ce que Dieu est en train de faire avec eux, il est en train de dire, « Voici, je vous crée glorieux à mon image et je vous donne un mandat absolument extraordinaire. Mais vous n'oublierez jamais qui est Dieu, qui est votre Créateur. » Et donc, je mets cette règle-là, unique, interdiction, puis je vous laisse aller, allez-y, créez. Mais n'oubliez jamais que vous êtes les reflets de Dieu. Et donc, vous devez continuer à vivre et servir en rendant grâce, en étant dans cette relation-là de reconnaissance avec Dieu. Alors, le serpent, je continue dans Genèse 3, dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et ce que le serpent vient leur proposer ici, en somme, c'est assez simple. Dieu veut vous garder dans cette relation de créature, de dépendance, assujetti, soumis à votre Créateur. Mais Dieu vous a menti. Vous n'avez pas besoin de cette relation-là. Vous pouvez vous émanciper complètement. Vous pouvez en fait ne plus être une créature de Dieu, mais vous pouvez devenir l'égal de Dieu. Et donc, Dieu vous interdit d'aller prendre ce fruit-là parce que le jour où vous allez en manger, vous allez devenir égal à Dieu. Mi-mensonge, mi-vérité, c'est toujours comme ça que le diable travaille. C'est comme ça en général qu'on travaille aussi lorsque nous, on décide de pécher. Un peu de vrai, un peu de faux, vous ne mourrez pas, il ne meurt pas immédiatement. C'est vrai qu'il découvre la connaissance du bien et du mal. Mais en même temps, au moment où il décide d'ambitionner maintenant, de devenir l'égal de Dieu, de dire « Non, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'être reconnaissant, soumis, assujetti à mon Créateur, à celui de qui ma vie vient. Je peux m'émanciper de ça et à partir de maintenant, je vais me créer moi-même. » À ce moment-là, profondément dans son âme, l'être humain est mort. L'être humain est mort. Et ce qui se passe, dans le fond, si je le mettais dans des termes plus contemporains, dans des termes modernes, philosophiquement, ce qui se passe, c'est que l'être humain a décidé ce jour-là qu'il allait devenir l'auteur de lui-même. À partir de ce moment-là, l'être humain a dit, « J'ai pas besoin d'avoir une référence extérieure, je vais me créer moi-même. Je vais être l'auteur de moi-même, je vais choisir qui je veux être entièrement. Personne ne va me dire à moi qui je dois être. Je suis le maître de mon destin, je vais m'inventer, je vais poursuivre mes rêves et ces rêves-là ne viendront de personne d'autre, ils vont venir de moi. » Est-ce que je commence à parler dans un langage contemporain? Mais c'est ça qui s'est passé, là. C'est ça qui s'est passé. L'être humain qui ne s'est pas créé lui-même, qui a été conçu, designé, l'univers, pensé par ce Dieu-là merveilleux, infiniment plus grand et majestueux que nous, l'être humain qui a été créé par Dieu a décidé qu'il allait devenir l'auteur de lui-même, qu'il allait être l'égal de Dieu. Et donc, nos plus belles des ambitions, nos plus nobles des ambitions sont corrompues parce que nous décidons que ces ambitions-là ne seront plus l'expression de ce reflet de Dieu, de notre Créateur, mais que nous allons être les auteurs, seuls et uniques, seuls capitaines à bord de toutes nos ambitions. L'être humain a décidé de se détacher de celui qui l'avait conçu, de celui qui le définissait, et il a décidé qu'il allait se définir lui-même. Et là, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Tant et aussi longtemps comme créature de Dieu, que je suis attaché dans mon cœur à Dieu, puis je reconnais que c'est lui l'auteur de la vie, il est plus grand, c'est lui mon créateur, c'est lui qui est beau, je suis en fait un reflet, même humble de cet être-là majestueux qui a créé l'univers. Mon point de référence, mon point de comparaison, c'est toujours Dieu. Fait qu'à quelque part, tu sais, toute la gang, tout nu devant Dieu, on n'est pas grand-chose. Fait que quand je me retrouve devant Dieu, je dis, wow! OK, je te ressemble un peu, là, je peux être content de certains trucs que j'ai faits, mais t'es Dieu, tu sais, on va garder ça bien, bien clair. À partir du moment où je décide que, non, finalement, Dieu, garde, merci, bonsoir, c'est le fun, tu m'as donné la vie, j'ai plus besoin de toi, je ne te reconnais plus dans ma vie, je m'invente moi-même, j'ai pas besoin de toi, je suis l'auteur de moi-même. C'est qui mes points de comparaison maintenant? C'est les gens autour de moi, j'ai pas le choix. Il faut que ce soit les gens autour de moi, mes points de comparaison. Si je me compare à Dieu, vous comprenez que je suis toujours un petit peu loser dans la patente. Fait que là, je vais me comparer avec les gens autour de moi. Et donc, cette corruption profonde de l'ambition, là, commence à avoir un paquet d'effets. Quand je me compare avec un, je me désole. Quand je me compare avec l'autre, je me console. J'en regarde un, puis je dis, je suis vraiment un loser. Puis j'en regarde un autre, puis je dis, ça, c'est un loser. Et c'est ça qui se passe. C'est vraiment ça qui se passe à ce moment-là. Simplement parce que j'ai quitté cet endroit où, humblement, on est tous égaux. Il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus beaux, il y en a qui sont plus intelligents, il y en a qui sont plus talentueux dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Mais devant Dieu, on peut tous entendre qu'on est tous petits. À partir du moment où je quitte cet endroit-là, où je quitte cette posture-là, cette reconnaissance-là fondamentale que ce que je suis, c'est Dieu qui me l'a donné, c'est mon Créateur qui me l'a donné, puis qui m'invite maintenant à aller plus loin. À partir du moment où je quitte ça et que je décide de devenir l'auteur de moi-même, bien, je vais aller fouiller en moi-même, puis des fois, j'ai besoin de m'encourager, fait que je vais aller regarder autour de moi, puis là, je vais commencer à me comparer avec les autres. Et c'est ce que j'appelle cette ambition fondamentalement égoïste, qui ne sert plus premièrement à refléter la gloire de Dieu et à faire du bien aux gens autour de moi, mais même mes ambitions les plus nobles, régulièrement, je vais découvrir dans mon cœur qu'elles servent des motifs vraiment égoïstes. Et c'est ça qui se passe, c'est ça la corruption de l'ambition. C'est que je me suis détaché de mon Créateur. Alors, c'est sûr que lorsque je jase avec des gens puis qu'ils me disent « Non, non, Dieu n'existe pas, puis l'humanité s'invente, puis l'humanité se construit, puis notre destinée est merveilleuse. » Puis j'écoute des gens comme ça réfléchir, je veux comprendre c'est quoi leur vision du monde, tout ça. Bien, inévitablement, ils sont leur propre point de comparaison. Ils se regardent dans le miroir, puis ils disent « Wow » et ils disent « Yash ». Puis après ça, ils regardent autour d'eux, puis des fois, ils disent « Wow » puis des fois, ils disent « Yash ». Parce qu'ils ont quitté cette posture-là d'humilité devant Dieu, qui est relativement simple, qui est extrêmement saine. Et donc, notre malheur à nous, et c'est le malheur de Geneviève Janson, c'est que même si mon ambition au départ pouvait être noble, je voulais exceller dans le sport. J'avais un amour profond pour ce sport-là. Puis je voulais toujours me dépasser moi-même, juste repousser mes limites pour le plaisir de ce sport-là. À un certain moment donné, la comparaison commence. Et mon cœur, cette corruption qu'il y a là, commence à faire la comparaison. Puis ce qui devient important, ce n'est plus d'exceller, d'aller le plus loin possible dans mes capacités. Non, c'est de parvenir à planter les gens autour de moi. Et cet appétit-là, cette soif-là de me définir moi-même par mes succès, mes ambitions personnelles, vient corrompre les plus nobles des ambitions. Et cette espèce de lutte-là, de combat-là intérieur va demeurer toute notre vie, d'accord? On ne peut pas prétendre comme chrétien que « j'ai connu Jésus, tout est cool, man, toutes tes ambitions sont correctes. » Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis il me disait « Avant d'être chrétien, quand j'étais jeune, je rêvais comme d'être une vedette de musique, puis tout le kit, puis réussir ça, puis tout ça. Puis là, j'ai découvert l'Évangile, puis j'étais mal à l'aise avec toutes ces ambitions-là, parce que finalement, il y avait comme une ambition de gloire, puis je me disais « OK, comme chrétien, est-ce que je pourrais encore ambitionner d'être devenir un musicien extraordinaire? » Savez-vous, ça a été quoi ma réponse? Si un chrétien ne peut pas apprendre à vivre sainement, sereinement, avec les luttes intérieures qu'il y a, devant les honneurs, devant les hommages, devant les « wow, merci, c'est génial », mais il n'y a pas de pasteur dans les églises. Il n'y a pas de pasteur dans les églises. Comprenez que la vedette qui a 80 000... Les Rolling Stones, cette semaine, là, c'était hot. Mais après le show, tout le monde a oublié ça, c'est fini. Moi, je suis dans le ministère. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Yannick, tu as sauvé mon mariage. » Yannick, il y avait un moment où je voulais juste plus vivre. Tu comprends-tu? Puis, c'est arrivé, Dieu s'est servi de toi, puis j'ai retrouvé le goût de vivre parce que Dieu s'est servi de toi pour apporter la parole. Ça, c'est la réalité d'un pasteur. Vous comprenez que le gars qui est supposé d'être le plus spirituel, en principe, parce qu'il est en avant et essaie de donner l'exemple, doit vivre avec cette espèce de tension-là constante. Dommage qu'ils sont malades. Puis c'est pour ça qu'on voit, dans le milieu religieux, des gens qui vont abuser de ça. Parce qu'il y a un pouvoir, il y a quelque chose d'incroyable qui est là. Vous comprenez, on finit pas les messages avec « tout le monde applaudit ». Mais les choses qui sont dites simplement par reconnaissance. Comment vous pensez qu'on deal avec ça? Et donc, si ce n'est pas possible, vous ne pensez pas que c'était ça un pasteur. Hein? Moi, quand je suis devenu pasteur, je voulais juste servir Jésus, puis je n'avais pas le goût que 300 personnes m'écoutent parler. Il faut toujours que je sois en train d'aller dans la prière et dire « Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi ». Je n'ai pas le droit de te voler cette gloire-là, c'est toi qui l'as fait. J'étais encore en train de brailler avant de monter sur le stage parce que je ne savais pas comment j'allais y arriver. Puis à la fin, oh! Non, c'est toi. Voyez-vous, constamment. Et donc, comme chrétien, on peut aspirer à des choses extraordinaires. On peut le faire. Mais je vais chercher à me rappeler, toujours et constamment, que ce que je suis, c'est parce que mon Créateur me l'a donné. Et ce que je deviens, c'est par sa grâce que je le deviens. Je vous ai donné un devoir la semaine dernière. Je vais vous le répéter tantôt, ce devoir-là. Moi, je vous demande de prendre le temps d'écrire vos ambitions, vos rêves, ceux que vous avez laissés mourir, ceux qui sont encore là. Je vous demande de prendre le temps d'écrire ça pour aller voir qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça. Notre malheur, c'est qu'en ambitionnant d'être égal de Dieu, de nous inventer nous-mêmes sans Dieu, nous avons oublié d'où nous venions. Et en fin de compte, c'est ça la corruption de l'ambition. C'est que nous avons oublié que c'est Dieu qui nous a créés. Ce que j'ai comme talent, ce que j'ai comme don, ce que j'ai comme capacité, c'est Dieu qui me les a donnés. Alors, comment sauver toutes ces ambitions corrompues dans nos cœurs, avec ces motifs doubles. Comment restaurer cela? Ça nous prenait un Superman. Ça nous prenait un super-héros, vraiment extraordinaire. Mais pas de ceux qu'on trouve dans les Marvel Comics. Vous commencez à savoir que j'aime les Marvel Comics. Qui sont tous, puis ça c'est vraiment intéressant, il y a eu une évolution dans la compréhension des super-héros à travers les années 80, même 70, ça avait commencé. On a commencé à présenter ces super-héros-là, non plus comme des anges qui sont parfaits, puis tout ce qu'ils font, eux autres, c'est se lever le matin et aller sauver du monde. On a commencé à voir apparaître les anti-héros. Il y a un film qui s'en vient bientôt, vous pouvez deviner que je vais aller le voir, je pense l'année prochaine. Superman contre Batman. Ça vient d'où cette affaire-là? Eh bien, c'est cette idée qu'on s'est dit, non, attendez un petit peu, si ces super-héros-là doivent nous ressembler, il va falloir qu'ils aient un côté très « dark », très sombre, où leurs ambitions personnelles viennent s'entremêler avec leurs aspirations les plus nobles de sauver l'humanité. Alors, comment est-ce que nos ambitions corrompues allaient-elles être sauvées? Ça nous prenait un super-héros. Mais pas un comme celui-là. Un avec un cœur véritablement noble. Pour ceux qui connaissaient ça, un vrai paladin. Laissez-moi vous parler de l'homme qui avait la plus belle des ambitions. Et on va voir ensemble comment l'Évangile vient restaurer nos ambitions corrompues. Jésus-Christ, le Dieu qui devint homme. Si vous n'êtes pas très familier avec le Nouveau Testament, un des passages importants pour comprendre qui est Jésus, c'est Jean 1. Prenez le temps cette semaine d'aller lire dans l'Évangile de Jean tout le chapitre 1. Au début, ça a l'air très philosophique, d'accord? Ça commence comme ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Qui est cette parole? Jean emprunte un concept au grec, le logos. Le logos qui veut dire parole, qui est le principe fondateur de tout l'univers. Il emprunte ce concept-là pour nous parler de quelqu'un ici. Et lorsqu'on arrive au verset 14, tout d'un coup, cette parole-là, ça devient plus clair de qui il s'agit. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc, ce qui apparaît à la fin de toute cette portion-là du passage, c'est que cette parole-là glorieuse qui était avec Dieu et qui était Dieu, c'était en fait Jésus-Christ. C'était en fait Dieu le Fils qui est venu sur la terre marcher comme un homme. Et ça, c'est super important parce qu'on a finalement quelqu'un qui était dans la gloire, qui ne pouvait pas aspirer à plus de gloire que ça. Et qui pourtant, dans l'éternité, a conçu un projet avec son Père extraordinairement ambitieux. De venir restaurer, de venir sauver des êtres humains ambitieux, mais corrompus, et de venir les sauver. Et donc, Jésus avait cette ambition absolument incroyable de venir sauver les hommes. J'ai donc l'être le plus parfait, Dieu le Fils, qui s'incarne et qui vient vivre humblement. Et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que cet homme-là avait pour seule ambition d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. D'aimer Dieu et de servir son prochain. Écoutez bien ceci toujours dans Jean 5, verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils, parlant de lui-même, ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes encore que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Un peu plus tôt dans l'Évangile de Jean, Jésus avait dit, Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Je reviens sur mon idée du début dans Genèse. La faute de l'homme, c'est de s'être détaché de son Créateur puis d'avoir décidé de s'inventer lui-même. À travers la vie de Jésus, Dieu le Fils qui s'est incarné, qui est venu sur la terre, a témoigné publiquement que jamais il n'a poursuivi ce détachement-là d'avec son Père. Est-ce que vous me suivez? Sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. J'ai Dieu le Fils, d'accord? Qui aurait pu dire, non, mais je veux être l'égal de mon Père. Et qui, intentionnellement, consciemment, a toujours, pendant tout son ministère, en fait de toute éternité, cherché à faire la volonté de son Père et a conservé cette relation-là où il y a le Père dans la Sainte Trinité et il y a le Fils. Et le Fils est soumis au Père et le Père instruit le Fils. Et il y a cette communion-là qui est parfaite où Christ sait qu'il est le messager du Père. Et c'est ça qu'il a dit dans son ministère terrestre. Il a dit, cette coupure-là que vous avez faite avec mon Père, vous les hommes sur la terre, lorsque vous avez décidé que vous alliez être vos propres inventeurs, vous alliez vous créer vous-même. Jamais je n'ai poursuivi cela. Ma plus grande ambition, c'est de faire la volonté de mon Père. Et en ceci, Jésus est l'homme parfait. Parce qu'il est celui qui a été créé, hein, Dieu lui a donné un corps, et qui jamais a voulu quitter son Créateur. Est-ce que vous me suivez? Et donc, Jésus pouvait ambitionner des projets les plus glorieux, les plus majestueux, celui de venir sauver les êtres humains de leur folie. Il pouvait ambitionner de faire ce qu'il allait y avoir de plus extraordinaire. Et le Père allait reconnaître ça. Dans le passage, Jésus dit, « Le Père va me montrer des œuvres plus grandes encore. » Et ça, c'est de l'ambition. Je viens faire des choses extraordinaires, mais plus grandes encore les œuvres que je vais faire. Et lorsqu'il a complété son œuvre, qu'est-ce que le Père a fait avec lui? Il l'a élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce que jamais Christ a quitté son Père. Jamais. Il a toujours cherché à garder cette relation où il voulait glorifier son Père. Et donc, les plus grandes de ses ambitions servaient la gloire de son Père. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, Jésus a continué à dire « Ta volonté, non la mienne. » Dans Luc 22, 42, on lit, et là, il est au summum de sa tentation, où il aurait pu être tenté de dire « Non, c'est correct, tu avais des projets pour moi, moi j'ai d'autres projets, là. Je ne m'en vais pas là sur cette croix-là, c'est pas vrai. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, qui est une coupe de souffrance, une coupe où il va porter sur lui-même la colère de Dieu pour nos péchés, pour nos offenses. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Christ garde encore cette obéissance, cet attachement. Il garde cette relation-là avec son Père. Et par sa vie et par sa mort, il nous rend juste et parfait. Donc, ce que Christ a fait, parfait dans sa vie, parfait dans sa mort, il est venu mourir sur cette croix pour nos péchés, afin que nous qui nous étions détachés de notre Créateur, qui avons décidé qu'on allait devenir nos propres auteurs, on puisse être réconciliés avec Dieu. C'est ça qu'il est venu faire. Et donc, ce qui nous est dit dans les Écritures, c'est qu'à celui qui reconnaît sa misère d'avoir quitté Dieu et qui reconnaît en Jésus-Christ cette gloire et cette vie parfaite qui n'a jamais quitté Dieu et qui décide de placer sa foi en Jésus, non plus en moi-même, je décide que je ne serai plus ma référence. Ça va être Jésus ma référence. La parole de Dieu nous dit qu'à celui qui place sa foi en Jésus-Christ, cette œuvre parfaite, cette vie parfaite de Jésus, ça devient ma nouvelle identité. Dieu décide de me regarder à travers cette vie parfaite de Jésus-Christ. Et ça, les amis, ça c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça c'est l'évangile de Jésus-Christ. On lit dans Romains 5, 18, 19, « Ainsi donc, comme par une seule offense, faisant référence à Adam et Ève, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Cette nature qui nous conduit à se détacher de Dieu, on l'a tous hérité. On est avec cette nature-là. Ça prend juste quelques mois, quelques années pour que ça se manifeste. C'est très, très, très évident. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Christ, beaucoup seront rendus justes. » Je vais terminer sur cette idée-là, d'accord? La semaine prochaine, on va aller voir ensemble comment vivre avec nos ambitions une fois qu'on a saisi cela. Mais regardez bien ceci, c'est super important. Ce que Paul est en train de me dire ici, Paul est en train de me dire, c'est correct, vous avez tout hérité de la nature d'Adam. Vous êtes tous devenus des autocréateurs, vous décidez qui voulait être votre destinée, votre vie. Je m'invente moi-même. Un jour, Dieu, dans sa grâce, t'a peut-être convaincu que bon, c'était assez ordinaire ce que tu arrivais à faire. Fait que tu avais peut-être besoin de retourner vers ton Créateur. Mais la relation est brisée. je l'ai abandonné, je l'ai renié. Et Christ est venu comme un homme parfait et mort sur cette croix, ressuscité d'entre les morts. Il n'a jamais renié son Père, il a toujours obéi à son Père jusqu'à la croix. Il a vécu une vie parfaite, il a été le reflet de son Père toujours. Et les Écritures me disent que si je place ma foi en lui, j'ai maintenant une nouvelle identité. Et ça, c'est super important. Ce que Paul dit ici, écoutez bien la fin. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Lorsqu'on commence à étudier l'Évangile, souvent la première chose qui nous frappe, c'est que Jésus meurt sur la croix pour le pardon de mes péchés. D'accord? Je suis un pécheur, je suis rebelle, je veux me réconcilier avec Dieu. Comment est-ce que je vais pouvoir m'approcher d'un Dieu saint? Moi qui suis pécheur, c'est Christ qui meurt sur la croix. Son sacrifice m'apporte le pardon des péchés. Maintenant, écoutez bien ceci. Si vous êtes chrétien depuis une couple d'années, ce qui suit, vous devez grandir là-dedans, je vous le dis. C'est majeur. C'est majeur. Les Écritures me disent que Jésus ne m'a pas seulement donné son sacrifice à la croix. Il m'a donné sa vie parfaite. Lui, il a été cet homme qui reflétait toujours la gloire de Dieu, qui avait des ambitions incroyables, celles de sauver les hommes, mais toujours pour la gloire de son Père, toujours pour le bien commun, pas premièrement pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Et cette vie-là, cette vie parfaite, notre terme en théologie, c'est qu'elle m'est imputée. Dieu décide de me regarder maintenant à travers cette vie parfaite-là de Christ. Pourquoi est-ce que c'est important en relation avec l'ambition? C'est qu'à partir du moment où j'ai quitté Dieu, mes ambitions servent à définir ma valeur. Le jour où l'homme a quitté Dieu, l'homme doit devenir ambitieux pour prouver sa valeur, pour se prouver sa propre valeur. Mais moi, Yannick Étier, là, moi qui essayais de prouver à tout le monde que j'avais de la valeur, puis à moi-même, puis tout ça, puis à un certain moment donné, ma conversion, ça se résume à une chose. Je me suis arrêté, puis j'ai dit, Seigneur, j'arriverai jamais à être aussi grand que je voudrais l'être. Parce que je déconne tout le temps, puis je pète les affaires, parce que mes ambitions sont corrompues. Et lorsque j'ai réalisé cela, j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, Dieu m'a dit alors, Yannick, je te regarde non plus pour ce que tu réussis à faire, mais pour ce que Christ a réussi à faire. L'identité de Jésus-Christ devient ton identité à toi. La vie de Jésus-Christ, c'est à travers cette vie-là que je vais te regarder. Ça, c'est super important. Parce qu'au jour où j'ai cru, Dieu m'a dit, à partir de maintenant, Yannick, je te regarde à travers Christ. Ta vie à toi est caché en Christ, nous dit l'apôtre Paul. Et donc, à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe avec mes ambitions? Mes ambitions ne servent plus à définir ma valeur. J'ai plus rien à faire pour avoir de la valeur, parce que je sais que Dieu me regarde à travers Christ. J'ai une grande valeur à ses yeux, parce qu'il me regarde en Jésus-Christ. J'ai plus rien à prouver. Quand je me lève le matin puis je dis, boy, il n'y a pas grand monde qui me connaisse sur la terre. Hey, copain, Dieu te connaît par ton nom. As-tu besoin de quelque chose d'autre? Oui, mais je ne sais pas si je vais faire des grandes choses dans la vie. Dieu te promet la gloire pour l'éternité. De quoi tu as besoin? J'ai plus rien à faire pour prouver ma valeur. Ma valeur est en Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, mes ambitions peuvent à nouveau être connectées avec Dieu, servir à refléter la gloire de Dieu et à faire du bien aux gens autour de moi. Je ne suis pas en train de vous dire que je vis ça parfaitement. Je pense que ma confession tantôt du pasteur, qu'il y a 300 personnes qui l'écoutent, est explicite, hein? Mais je comprends que mes ambitions ne servent plus à définir ma valeur. Ma valeur est en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas saisi cela, vous allez être profondément malheureux parce qu'il vous manque encore une grosse partie de l'Évangile dans votre quotidien. Lorsqu'on dit que l'Évangile doit se vivre au quotidien, ta valeur Que tu réussisses à faire des grandes choses ou non, que des gens te remarquent ou non, que tu sois connu ou non, que tu laisses ta marque ou non. Ta marque est déjà là au ciel en Jésus-Christ. Ton nom est déjà connu de Dieu en Jésus-Christ. Tu es déjà promis à la gloire en Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, je peux recommencer à avoir de belles et nobles ambitions qui servent fondamentalement à être un reflet de la gloire de Dieu à travers ma vie et pour le bien commun. Progressivement, plus je grandis dans ma foi, plus je grandis à l'image de Jésus-Christ, plus je suis restauré comme être humain, plus mes ambitions que Dieu me donne, qui viennent en moi de faire des grandes choses, je vais aller planter une église. Pour toi? Ah, des fois, pour Dieu, ouais, en général. Comprenez? Je veux être le meilleur à job, je veux être le meilleur employé, je veux exceller là-dedans. Pour toi, je veux attirer l'attention sur Christ à travers ça aussi. Mais des fois, c'est pour moi, tu sais. On est dans un meeting avec le staff, puis là, c'est moi qui avais lancé une idée, tout ça, puis c'était comme, était vraiment hot. Tout le monde a oublié que c'était moi, puis le smat, la balle l'a récupéré, puis il arrive, puis il dit, « Hey, j'ai une super idée, les copains, boum, boum, boum. » Là, je me dis, tu sais, les gens savent que je suis chrétien. Je dis, non, 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 c'est mon idée, je commence à me pogner avec lui, ça a l'air de quoi, cette affaire-là. Fait que, gentiment, j'essaie juste de dire, ah oui, hey, c'est bon, c'est bien, tu sais, c'est vraiment une belle récupération, peut-être de quelque chose que j'avais déjà comme lancé, tu sais. Puis, je trouve ça le fun, hein, on travaille en équipe, ça prend quelqu'un qui a l'idée au départ, tu sais, puis après ça, on l'amène plus loin, cette idée-là. Super illustration de Dave Harvey dans son livre. Puis, il dit, aïe, aïe, c'était tellement n'importe quoi. Je voulais juste à quelque part qu'un peu de gloire revienne sur moi quand même, au lieu d'être en train de servir le bien commun. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à aspirer à de grandes choses, à la gloire pour l'éternité, mais à réaliser de grandes choses aussi sur la terre pour sa gloire. Parce que Dieu a créé l'humanité comme des créatures merveilleuses, avec des talents, avec des dons, avec du potentiel, avec une capacité de rêver, de créer, d'organiser, de faire des choses incroyables. Et l'Évangile ne nous conduit pas à devenir de petits êtres misérables qui voulons toujours passer en dessous du tapis, puis personne ne nous voit jamais, il n'y a rien qu'on est en train de faire. Il faut vraiment que je sois l'employé, que personne ne remarque. Non, Paul dit, « Sers et travaille comme pour le Seigneur. Fais-le avec tout ton cœur, avec dévouement. Poursuis et donne le meilleur de toi-même. » Puis on apprend à grandir avec ce jeu-là de double motif dans nos cœurs, où parfois j'ai recommencé à chercher la gloire pour moi au lieu de la chercher premièrement pour mon Dieu puis pour le bien commun. Et la semaine prochaine, c'est ça qu'on va voir ensemble. Une fois que je me suis converti, une fois que mes ambitions ont été converties, comment est-ce que Dieu, à travers son esprit et sa parole, se sert de mes ambitions pour continuer à me faire grandir et m'aider à accomplir un grand nombre d'entre elles? On va voir ça ensemble la semaine prochaine. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence pour t'adorer. T'adorer premièrement, Seigneur, parce que tu nous as créés comme des créatures merveilleuses qui reflétons ta gloire à toi, Seigneur, avant tout. T'adorer premièrement parce que toi, tu es Dieu, Seigneur. Et ce matin, ce qu'on voit ensemble, c'est qu'on a besoin de se rappeler d'où on vient. On a besoin de retourner à notre Créateur. Et Seigneur Jésus, on veut reconnaître ce matin que tu es cet homme parfait, parfaitement ambitieux. Ton ambition était extraordinaire, celle de sauver les hommes, de restaurer l'humanité pour la gloire de ton Père. Oh, sois béni, Jésus. Merci pour ton sacrifice à la croix qui rend possible cette restauration de mon âme, Seigneur. Et merci pour ton esprit qui m'est donné. Lorsque je vais à la croix, lorsque je place ma foi dans ton sacrifice, ton esprit m'est donné et cette grande aventure de restauration commence, Seigneur. Je te prie, Père, cette semaine de faire une œuvre dans nos cœurs, de nous rappeler ces ambitions oubliées, ces rêves que nous avons mis de côté parce qu'ils nous ont fait peur, parce qu'on a vu notre cœur à travers ça, parce qu'on a cessé de croire en toi. Seigneur, viens nous montrer comment ton évangile vient restaurer ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et viens restaurer nos ambitions. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.